création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Nathalie Battus est tombée dans le rock, comme on tombe en religion. Le 26 octobre 1994, elle avouait ce penchant dans les nuits magnétiques, et nous ne demandons pas mieux que la suivre, savourant bien des morceaux comme une Madeleine de Proust. Combat rock, poétique rock, par Nathalie Battus et Alexandre Julia.
Les accords de rock, il y en a beaucoup, mais le rock and roll, je suis Berry quoi.
Ensuite,
ça peut être
la première fois que tu as eu ta guitare entre les mains, tu as joué, tu as repris qui
ça devait être les Rolling Stones. Sympathy for the Devil, version live, c'est-à-dire. C'était le son de la guitare, en fait, de la guitare saturée, quoi, qui me rendait fou, quoi. C'est-à-dire, j'y collais des images complètement surréelles, quoi. J'imaginais beaucoup de choses derrière tout ça, quoi. Sans pour autant comprendre les paroles de la chanson, enfin, les paroles des chansons m'importaient peu, quoi. Ce qui me plaisait, en fait, c'était le monde que pouvait me faire percevoir la musique, quoi, à travers, en particulier, le son de la guitare. J'adore jouer de la guitare saturée, quoi. À forte dose, quoi. Et disons que les vibrations sonores me mettent dans un état que rien d'autre ne peut égaler.
Et sur scène, c'est encore mieux, alors ?
Sur scène, c'est encore mieux. Là, par exemple, ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas joué sur scène et je vais peut-être aller jouer gratuitement pour des groupes, histoire de retrouver un petit peu le public, qui me manque beaucoup. Je ne sais pas si je lui manque, mais en tout cas... Il me manque. Quand je joue de la guitare, je ressens des choses en moi-même, quoi. Mon corps me fait mal, ou en tout cas réagit au fait que je fasse de la musique. Et c'est ce que j'aimerais quasiment exprimer aussi. J'aimerais pouvoir exprimer ce que je ressens physiquement et le traduire en mots, en fait. Quelque part, ça peut passer peut-être pour quelque chose de très prétentieux, mais je dis que j'ai pas choisi. La première fois que j'ai vibré en écoutant de la musique, j'ai rien demandé, en fait. Et depuis, voilà ce qui m'arrive, quoi. Je suis devenu guitariste et j'ai besoin... Il me vient tellement de choses à l'intérieur que j'ai en permanence ce besoin de dégager ça à l'extérieur. Oui. J'appelle ça les vibrations cosmiques.
I'm dream takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide.
Je n'aime pas, par exemple, le fait de revendiquer crûment dans un texte des avis politiques, quoi. Je crois que la musique est d'autant plus révolutionnaire, justement, qu'elle offre un monde nouveau, quoi, qu'elle communique un monde qui est complètement nouveau. Je crois que d'ailleurs le peuple, la masse, a besoin de ça, de pouvoir écouter, de pouvoir se laisser aller en écoutant de la musique. Quoi. C'est pour ça que la musique est aussi populaire. Quoi. Il n'existe pas un être sur Terre, je crois, qui n'écoute pas de la musique dans sa chambre, en allumant la radio, même avec les moyens du bord. C'est vrai que l'art, comme la musique, c'est une matière à vivre. Quoi. Les gens ne peuvent pas vivre sans art.
Comme une fatalité, la guitare ?
Non, pas une fatalité, parce que de toute façon, quand j'essaie de m'imaginer un futur, quoi, je le vois toujours avec ma guitare. Et de toute façon, j'ai commencé, la guitare ne me faisait pas vivre. Maintenant, elle m'a aidé à rapporter de l'argent. C'est important, il faut vivre. Donc, c'est une fatalité et une volonté, quoi.
Un désir.
Un désir, oui. C'est exactement le mot. Un désir, un plaisir. Un amour.
Culture contre culture, la mythologie rock'n'rollienne est née du blues et de l'électricité. D'ailleurs, le rock ne dit que ça, que les choses se font et se défont, naissent et meurent dans un accord majeur. Et quand ça sature, c'est qu'on veut jouer avec l'au-delà. Reste que pour certains, les versions françaises n'ont jamais été vraiment à la hauteur.
En France, je crois qu'on a bien compris l'attitude rock. Mais l'attitude rock en France n'est pas seulement liée à la musique. Je pense qu'il y a un patrimoine politique en France qui d'ailleurs a été largement une source d'inspiration pour certains rockers américains. Je pense à Rimbaud, par exemple, Verlaine, Rimbaud, etc., qui ont alimenté l'imaginaire de gens comme Bob Dylan ou Patti Smith, qui, chez nous, qui peut exister aussi sans passer obligatoirement par le fait de prendre une guitare, de monter sur scène, etc. Bon. Donc, ce personnage, si vous voulez, est un personnage qu'on appelle rock, bon, qui peut être un personnage de beatnik, qui peut être un personnage bohème au sens germano-pratin ou même plus ancien du terme, a toujours existé en France. Certes, alors, le rock, le personnage rock en France, malheureusement, est souvent tristement conventionnel. Celui qui, par contre, est une pâle copie, une pâle figure de ce qui se passe ailleurs. C'est un petit peu triste. On voit bon, un tel musicien, tel chanteur, tel groupe arrive à un certain succès en Angleterre, aux États-Unis. On peut être certain que dans les 2 ans, 3 ans, etc., qui vont suivre, il y aura son clone en France, mais à la française. Alors ce terme à la française est en soi réducteur parce que on se retrouve toujours justement avec une version atténuée, affaiblie, édulcorée, bien nettoyée de tout ce qui peut déranger, etc., les petits jeunes dans l'esprit de ceux qui vendent la musique. Et qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose. Ça ne veut pas dire pour ça que le rock ne doit pas être considéré comme une culture, mais le contraire. Mais quand le rock lui-même se prend pour une culture, il devient prétentieux et devient vite imbuvable. Je prends un exemple très précis, Lou Reed, par exemple, qui, tant qu'il était chanteur et auteur et compositeur pour le Velvet Underground, était un type formidable. jusqu'à une période très récente, puis depuis qu'il se prend pour un poète officiel, ça ne va plus du tout. Bon, ben ça, ça nous éloigne du rock français, mais enfin, c'est bon, c'est un peu un cas typique de dérive, justement, dans le culturel. C'est pas le rôle du rock, c'est le rôle du rock, un peu au contraire, de donner des coups de pied dans la fourmilière culturelle. Et de la remettre un petit peu en question, et en tant que tel, il est intéressant, parce que justement, on bouleverse un peu les règles du jeu. États-Unis, c'est-à-dire de cette matrice du rock'n'roll, plus on s'aperçoit que les gens prennent fait et cause pour le rock'n'roll parce que pour eux c'est une manière de survie dans un monde qui visiblement les ennuie. C'est pas très net, les contours sont mal définis. On voit encore souvent en France aujourd'hui des gens installer des plaques minéralogiques américaines sur leur voiture, s'imaginant que ce sont sur des autoroutes américaines. On ne sait pas quoi, quel rêve, quel fantasme ils nourrissent à travers ça. Et le rock, évidemment, est au cœur de ces fantasmes. Alors aujourd'hui, il y a différents rocks selon la nature du fantasme, que ce soit un fantasme de routier américain ou un fantasme de punk, ou peu importe. Mais dès le début, ça a été ça. Le rock a toujours été rebelle et commercial. Dans le rock, c'est cette dualité de la rébellion et de la commercialisation. C'est-à-dire commercialisation de la rébellion plutôt que rébellion contre la commercialisation, quand même.
Société du spectacle oblige, donc le rock n'est pas mort.
Le rock n'a jamais nié faire partie de la société du spectacle et a toujours assumé, au contraire, faire partie de la société du spectacle et faire du spectacle. Je crois que c'est important. Il n'a jamais cherché à remettre en question. Le rock, ce n'est pas le living théâtre. Hein. C'est, on fait du spectacle, il faut frapper les gens, faut que les gens soient secoués par envie de danser, etc. et d'acheter le disque.
C'est comme dans un vieux rock and roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne.
Tu vis pour ta musique ?
Ouais. Pratiquement, ouais. Ouais. C'est la musique qui me fait vivre aussi, quoi. Sans musique, je vois pas, tu vois. En fait, c'est clair que je m'intéresse pas à grand chose, tu vois. Je m'intéresse au cinéma, évidemment, à la musique, ça fait beaucoup déjà. Si tu prends ça au sens large, je m'intéresse à plein de musique, mais je fais du sport, mais je m'intéresse pas au sport du tout, tu vois. Donc, c'est la musique qui me fait vivre, quoi, en fait. Ouais.
Bon, alors, on va en venir aux définitions. Par exemple, la presse qui adore coller des étiquettes dit de vous, enfin du groupe Treponempal, entre trash, hardcore, indus, industriel et cold.
Ça veut dire quoi tout ça? Et en gros, est-ce que tu pourrais me définir
d'où? Ça veut dire que Trepanem Pal a le cul entre 30 chaises, quoi. Voilà. C'est-à-dire que on prend nos influences dans plein de genres musicaux différents, on essaie d'en tirer le meilleur et, pour créer la musique de Trepanem Pal, quoi. Ouais.
Alors les influences, justement, c'est quoi?
Bah, tout ce qui prend au ventre, tout ce qui prend au cœur, tout ce qui prend la tête. C'est que des riffs et des sons et des musiques intenses, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est avec ça qu'on crée notre musique. Donc toutes les choses qu'ils mettent là, entre trash, industriel, c'est parce que peut-être dans le trash on a pris la violence, je dirais, des riffs, dans l'industriel les ambiances, tu vois, voilà, quoi. Pour moi, les Sex Pistols, c'est un truc dont je parle plus jamais, quoi, mais qui a été le détonateur, quoi, pour moi. Tout le mouvement punk, pour moi, ça a été le détonateur, quoi. Voilà. C'est une vraie galère de faire ça. Si, justement, c'est une vraie galère de faire ça, mais bon, je vais pas pleurer sur mon sort, c'est moi qui l'ai choisi, quoi. Mais si, c'est une vraie galère, quoi. Financièrement, après 8 ans, on en est toujours à zéro, quoi. Tu vois, on va peut-être toucher là les 507 heures minimum, tu vois, d'un intermittent du spectacle, là, tu vois, après 8 ans, tu vois. Et puis bon, ouais, c'est toujours la galère, quoi. C'est vivre avec les copines, t'as les rockers moyens, et c'est toujours comme ça, quoi. Pour certains, c'est vivre chez les parents, bon, voilà. Mais c'est toujours se raccrocher à des trucs à droite, à gauche, et il y a des moments où ça te fait perdre la tête, quoi, tu vois. Mais bon, c'est un style de vie que t'as choisi, donc. Donc voilà, on verra bien où ça finira. Peut-être dans les égouts, je sais pas.
Bon, les meilleurs moments?
Le meilleur moment, c'est sur scène, quoi. Pour moi, c'est sur scène, quoi. Quand tu fais un concert, un carton, que les gens ils réagissent en face infernalement, et puis, plus ils te donnent en face, et plus toi tu donnes, tu vois. Donc après, ça devient un cercle pas vicieux, mais tu vois, tu joues au ping-pong avec les gens, quoi, en fait. Donc c'est vraiment classe. Ça, c'est le meilleur moment, c'est ça, pour moi. La scène. Si t'arrives à faire passer ton feeling, si tu fais de la musique, c'est justement, tu mets tous tes sentiments dedans, et quand tes sentiments, t'arrives à les faire passer aux gens, tu vois. T'as atteint le top, quoi, tu vois. Donc ouais, pour moi, c'est la scène, quoi.
Ça met longtemps à venir quand même la reconnaissance ici en France, quoi.
Ouais, ça.
Vous n'en voulez à personne?
Non, parce que, étant né dans ce pays, tu sais comment ça se passe, c'est que c'est quand même un pays de ringard à la base, tu vois. Musicalement, hein, je parle, parce que justement, c'est ce qui est étonnant, c'est que la France, c'est un pays qui est très ouvert quand même. C'est un pays très en avant. C'est au niveau du sexe, par exemple, à la télé, tu peux voir ça. Tu vois, nous Français, ça nous choque même plus. On en parle jamais, tu vois. Bah, t'as même des copains anglais ici, tu vois, tu les mets devant la 6, les mecs, ils hallucinent, tu vois. Parce que là-bas, en Angleterre, ils ont beau avoir des crêtes de 4 mètres de long, tu vois. Et ben, dès que tu vois un string ou un truc comme ça sur une affiche ici ou à la télé, les mecs, ils hallucinent parce qu'ils vivent dans des pays complètement conservateurs. Alors moi, c'est ce que j'ai jamais compris, justement, en France, c'est qu'en étant si moderne, si ouvert d'esprit, comment on peut être si fermé à la musique, tu vois. Et bon, ça semble avoir changé, mais je pense que le français est quand même un sacré chauvin, quoi. Tout ce qui a marché le plus en rock, et je dirais en rock sauvage, à savoir le rock alternatif, ça a toujours été des musiques hyper franchouillardes. Tu vois. Alors des groupes très très alternatifs franchouillards, dont on ne citera pas de nom. Mais et moi, c'est ce qui m'a toujours désolé. Tu vois. À savoir, tu vois, le nouveau truc qui marche en ce moment, là, Mangez-moi. Tu vois, un truc de ringard, mais à toute épreuve. Tu vois. Et ils vendent, je ne sais plus combien de millions de disques. Tu vois, de millions, j'exagère, mais de milliers de disques. Et voilà, donc ce que je m'aperçois en fait, c'est qu'il y a une espèce de. Je sais pas si ça vient d'une espèce d'embourgeoisement des Français, à savoir qu'on aime ce qui fait bien rigoler, mais on n'a pas besoin en fin de compte d'une musique très 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 tripée, quoi. Alors ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de crises en France, parce que tu t'aperçois que c'est dans les pays très en crise que des groupes comme nous ça marche.
Alors justement, qu'est-ce que vous dites dans vos chansons? De quoi vous parlez? Contre quoi vous vous battez, ou enfin quels sont les thèmes qui vous intéressent?
Les thèmes, en fait, c'est souvent, en fait, c'est des choses qui me touchent, qui sont autour de moi, mais souvent très proches, en fait. Donc c'est des images de, c'est pas le texte, c'est pas de dire contre ci ou tu vois, d'être contre ça et de faire de la dénonciation, on n'en fait pas du tout, tu vois. On donne juste des images, tu vois, assez tendues, assez noires de choses, où en fait on pose pas mal de questions aussi, tu vois.
Et pourquoi ce goût de l'extrême, quoi? Pourquoi tant de bruit? Parce qu'il n'y a pas tant de haine, finalement, dans ce que tu me dis, c'est plutôt un discours...
C'est une rage, c'est plus une rage de vivre que la haine, une haine, hein. c'est pas de la haine. Mais c'est pris comme de la haine par certaines gens, certaines personnes, parce que, bon, bah, effectivement, sur scène, on donne, mais... la musique, c'est un peu comme un sport, en fait, hein. C'est un moyen de se défouler... Et d'extirper tout ce que t'as en toi, bon, au lieu de le faire en combattant, je sais pas, en boxe ou en, je sais pas, dans un truc de combat, bah c'est tu le fais à travers la musique. La musique, ça a toujours été dans tous les peuples, les peuples les plus démunis, c'est toujours eux qui ont la musique la plus incroyable, à savoir les peuples noirs par exemple, ou les peuples indiens, tu vois. Et même ce qui me fait toujours triper plus qu'un groupe de rock de base, c'est de voir justement des tribus africaines danser, des rites indiens, tu vois, par exemple, avec ces, tu vois, les rites indiens, c'est des trucs de fou, quoi. Tu vois, quand un mec il a décidé d'aller de telle ville à telle ville en se roulant par terre, comme ça, tu vois, ou en marchant à l'envers, ou tu vois, en faisant un truc comme ça, c'est des trucs qui me font halluciner, quoi. Parce que c'est pousser ta volonté à faire des choses qui sont, ouais, complètement hors normes, mais c'est peut-être pas si débile que ça, quoi, qui pense, quoi, tu vois. Jusqu'à présent, c'était plus un coup de marteau, quoi. Des coups de marteau qu'on distribuait, comme ça. Mais maintenant, on veut se tourner justement sur quelque chose de plus, peut-être plus positif, tu vois. Je sais pas si c'est plus positif, mais plus vivant, quoi. Beaucoup plus agité, quoi. Puisqu'en fait, on arrivait à avoir un contrôle sur l'esprit des gens. On le sentait bien pendant les concerts aussi. Parce que justement, on n'était pas un groupe où tu pogotes, où tu bouges vraiment. Mais en même temps, il y avait cette tension qui était là et que tu prenais en pleine face, quoi. Et depuis le dernier album, on a quelques morceaux comme ça où on a laissé éclater l'énergie. Et le fait de laisser éclater l'énergie, c'est clair, t'accroches plus de gens. Sans pour autant devenir plus commercial, quoi.
Te sens un peu créateur justement dans cette musique, un peu innovateur, aller chercher des pistes que les autres n'ont pas
non,
été.
Moi je cherche pas, non. Je me pose pas de questions là-dessus. Je suis créateur de. Je sais pas, moi je réfléchis pas à ça. Je fais ce qui me plaît, tu vois.
Oui, mais tu t'influences quand même d'autres musiques.
Je suis créateur, je suis artiste, ça c'est un truc, mais non, je fais ce qui me plaît, quoi. J'essaie de créer mon truc, de créer créer une ambiance dans notre groupe et tout ça, tu vois, mais. Mais je sais pas si je me sens créateur, je sais pas.
Disons rechercher des choses,
ouais,
des nouvelles.
Ouais, mais je te dis, si je me sentir créateur, ouais, je me sens. Mais je sais pas si on crée vraiment quelque chose en réalité, quoi. Je pense qu'on compile des choses, mais créer dans la musique maintenant, ça me paraît vraiment difficile. On est un bon groupe compileur. Tiens, on compile pas mal de choses pour arriver à faire un truc puissant. Mais jouer les dire je suis artiste, je suis créateur, tout ça, je m'en fous.
J'écouterai Panel Pal parce que c'est puissant et ça me fait planer, quoi. Je ferme les yeux et je suis... Je sais pas, quoi. C'est intime, hein. Tu vois, c'est une question de perception, quoi. Disons, je me sens bien quand j'écoute ça au Walkman ou sur scène. Enfin, quand ils sont sur scène, c'est bien. Disons, moi, c'est ce que je préfère dans ce que j'ai vu. Donc, en plus, j'ai de la chance, ils sont sympas, je les connais un peu. Donc, c'est parfait, quoi. Il y en a qui marquent... Ils se tatouent à maman. Moi, j'avais envie de mon blouson que de le tatouer Trapan and Pal. Je trouvais ça plus sympa que... Ouais, ou Lacoste, ou... Je sais pas, c'est une question... Je le revendique, quoi. J'ai pris la tête à tous mes potes quand je les ai connus, et dire, ouais, ça, c'est bien. Et puis maintenant que c'est un groupe plus ou moins reconnu, il y en a plus qui écoutent Trapped and Pal, c'est sûr, quoi. Disons, ce qui me fait planer, c'est la puissance, mais c'est pas la puissance violence, c'est une puissance qui met un peu en lévitation. Ouais. Ouais, c'est, je sais pas, moi, ça me fait planer, quoi. Vraiment, c'est, je ferme les yeux, je suis bien. C'est marrant, ça me fait pas ça pour beaucoup de groupes, quoi. Mais c'est comme ça que je le ressens, quoi. Je l'ai toujours hyper bien ressenti. Je sais pas, c'est impressionnant. À chaque fois, c'est une grosse claque. Des fois, je vais les voir en répète, et là, c'est carré, c'est le pied, quoi. C'est la puissance brute. Il y a pas la sono, tu vois. Il y a pas, c'est pas déformé, quoi. C'est réel. Et bon, c'est la grosse claque, quoi. J'adore. Je sais pas comment l'exprimer, quoi. Mais c'est, pour moi, c'est hyper intime, quoi. Les paroles, je m'en fous. J'écoute le chant. Les paroles, ça m'intéresse pas, quoi. De toute façon, si des groupes plus ou moins politiques, c'était hyper courant. Il ferait mieux de faire de la politique réelle, quoi. Ils auraient plus d'écho. Enfin, c'est un choix de mode de vie aussi. Mais tout ce que j'écoute, même si c'est pas que des groupes de heavy metal, je cherche toujours la puissance, tu vois. Admettons. Un groupe comme les Tambours du Bronx, ils ont repris des rythmes de tribus africaines, enfin des gens qui faisaient déjà ça en Afrique sur des bidons. Moi, ils ont pris la puissance, mais t'écoutes, admettons, moi j'aime bien les Tambours du Burundi, et c'est pareil, quoi. Tu fermes les yeux, c'est planant, quoi. Je sais pas, c'est la mécanisation, enfin tu vois, c'est la répétition. Ouais, pour moi, c'est important, quoi, dans la musique, que ce soit pas toujours pareil, mais...
Il veut que ce soit un orgasme dans la musique. Ouais. Ce qu'il veut, lui, c'est écouter et triper dans la musique, donc avoir un orgasme avec la musique, tu vois. Et nous, c'est ce qu'on crée aussi avec dans ce qu'on fait. C'est ça le plus important, en fait, c'est un orgasme auditif, Trapped and Pal. C'est ça, et beaucoup de groupes qui sont dans notre genre, c'est ça. C'est des gens qui vivent leur truc très fort, 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 tu vois. Et qu'ils font passer fort en face, et les mecs ont envie de quelque chose de fort en face. Tu vois. Ils veulent pas. Parce que peut-être que justement, c'est le monde comme ça va. On essaye de te faire avaler plein de conneries, ou le monde fait que de toute façon, il faudrait peut-être que t'avales des trucs pour rester, tu vois. Et il y a des gens qui disent non, tu vois, non. Moi, je veux vivre à fond, je veux vivre vraiment, tu vois, et j'y arriverai, tu vois. Et ben, voilà, c'est tout ce qui se passe entre un public et un groupe. De toute façon, le public et le groupe, c'est la même chose, puisque nous-mêmes, on se retrouve en face de temps en temps. Donc.
Bonjour monsieur.
Pardon.
Enchanté.
On est 3, 4. Maintenant dans le groupe on est 6.
Oui.
En fait, ce qu'on fait là, c'est que comme on a, comment dire, on a enregistré la quasi-totalité du prochain disque, on a fait tous les instruments sauf des voix qu'on va refaire pour qu'elles soient plus mieux, quoi. Et quelques parties tuyaux, donc Juju, ça, son grand truc finalement, c'est le tuyau plus que le reste.
C'est fait avec des bouts de tube, comme tous les saxophones ou les trompettes, quoi. C'est des cônes. Donc, voilà. Alors, il y a un espèce de saxophone à coulisses, là. Et puis, des trucs qui sont entre le didgeridoo et les alimentés avec une hanche. Voilà.
T'es dans la sono, là, Juju ?
Non.
C'est laquelle ta bise ?
Ah, ça y est, c'est parti.
Thank you.
Moi, ce qui m'a intéressé dans le côté recherche énergique et compagnie, c'est que dans la philosophie des Sioux, et dans leur langage aussi, il y a quelque chose qui se développe de, par rapport à une recherche cosmique, etc. quoi. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'est faire un spectacle. C'est-à-dire que les personnes, le visuel est très important aussi pour nous. Ça fait partie de faire un spectacle. C'est pour ça qu'on se détache un peu du rock. Mais qu'on vient du rock, pourquoi ? Parce qu'on vient de ce milieu. Mais c'est sûr qu'on s'en libère un peu. Et moi, justement, le but, c'est d'être très large. Pas s'adresser qu'à un seul type de public. On a aussi travaillé avec une chorégraphe, par exemple, à un moment. C'était donc très intéressant pour nous parce qu'on a touché un autre genre de public et donc de personnes. Et plus hétéroclite, plus ça me plaît.
Oui, on a joué live pour une compagnie de danse. Mais tu vois, c'est comme en même temps on est français ni en France, on va pas imiter les Indiens. On s'inspire de quelque chose qui nous semble très fort. Et en même temps, comme on est né dans le rock, comme tous les gens de notre âge, on adore ça, la puissance énergique. Tu vois, il y a rien de tel qui est d'arriver dans un bon concert et qui se passe une forme de transe électrique quand tu vas à un concert de rock. Et nous notre notre démarche, c'est de réussir à mixer les deux, quoi. L'électricité et la puissance des amplificateurs avec la simplicité rythmique et harmonique de la musique tribale nord-américaine, indienne. Mais sans les imiter, on s'en inspire et en même temps on s'en dégage. Et on ne peut pas échapper au fait qu'on a écouté des centaines de groupes différents. Ouais. Mais tu vois, Zach parlait de la spiritualité indienne et même du langage indien, mais c'est vrai que ce qui est intéressant chez les Indiens dans leur musique comme dans leur forme de pensée, c'est qu'ils ont des concepts qui ne sont pas habituellement développés chez nous. Et
du style ?
Des concepts philosophiques, une manière de vivre au quotidien et dans l'absolu simultanément, qui est de la philosophie indienne. Et si tu veux, ça reste dans la musique. Donc réussir à... C'est sûr que notre musique est totalement en dehors des étiquettes, parce qu'elle a aussi à voir avec des...
Par exemple,
une démarche qui est hors rock au quotidien, quoi.
Oui, parce que pour eux, par exemple, la réalité est complètement relative, car la réalité, elle n'est perçue par l'œil. L'œil qui perçoit cette image, en plus, l'interprète selon son vécu propre. Donc, chacun a une vision du monde qui est complètement différente. Et ça, ils en sont très conscients. C'est pour ça qu'ils disent, et que l'on a repris une formule de Crazy Horse sur notre album, qui dit « Nous vivons à l'ombre du réel ». Parce que le réel, quel est-il exactement ?
Mais vous prenez quoi exactement dans cette philosophie-là ?
Ce que je prends dans cette philosophie-là, c'est qu'elle est proche de la mienne. Donc je ne prends rien de cette philosophie-là. Tout simplement, ça correspond à mon esprit. Parce que moi, je ne me sens pas vraiment entièrement concerné par certaines choses qui se passent sur ces bases matérielles. Sauf que je ne suis pas non plus... je ne fais pas partie de ces gens qui ont tripé sur les Amérindiens et à faire le retour à la terre, Tipeee, tout ça. Non, c'est pas ce monde. C'est vraiment une histoire de philosophie, de respect de la nature, de prendre conscience de cette force de la nature, etc. Mais pas vivre bêtement avec des chèvres dans la campagne, ça m'intéresse pas.
Mais tu vois, l'autre jour, on parlait de science-fiction, mais... Et par exemple, moi, ce que j'apprécie dans la littérature écrite par l'écrivain Philippe K. Dick, c'est que finalement, il a une opinion très proche de la spiritualité indienne, dans quel fondement de toute sa littérature, qui est que finalement, il y a comme une sorte de voile, c'est une métaphore, mais de voile qui nous empêche de saisir... La réalité la plus pure et il semblerait et on en a l'intuition et on le partage et mais ça n'a rien à voir avec la musique mais bon que oui qu'on vit à l'ombre du réel d'une chose qui nous est cachée et donc peut-être que la musique qu'on fait avec des sons différents c'est aussi un moyen de passer de l'autre côté de ce voile.
Le plus important, c'est le son. Et ce qui se dégage du son, c'est l'émotion. C'est pour ça aussi les onomatopées. C'est parce que c'est un langage qui est plus proche des tripes et de la voix et de l'émotion. Donc c'est plutôt un travail sur l'émotion et sur l'imagerie.
C'est vrai que nous, la musique de Knikrik, comme la plupart des musiques tribales qui nous inspirent, pousse à la transe. C'est quand même fabuleux de pouvoir soi-même être en transe ou de voir les gens en transe, c'est-à-dire qu'ils s'extériorisent, qu'ils sortent d'eux-mêmes et qu'ils reçoivent une espèce de grand rayon de chaleur qui vient de très très loin.
Rencontre avec deux dandies du grand jeu rock. qui ont conçu un atypique de luxe sur support papier, genre lointain cousin du bon vieux fanzine de base, sur papier mâché. Cet album-là, format 33 tours géants, a été conçu comme une œuvre véritable, ce qui n'était pas gagné d'avance, le rock étant par définition un vivant éphémère, difficile à saisir par écrit.
Ce qui nous intéressait à l'époque, c'était la technique du sampling, l'échantillonnage. Donc on a piqué des images, on a piqué des citations, on a piqué du texte à droite à gauche. On a fait une sorte de mélange, de pot-pourri de tout ce qu'on aimait, et en essayant d'avoir un résultat soit chaotique, soit fort. Et aussi la possibilité de rentrer dans le bouquin, dans le journal, par n'importe quelle porte, c'est-à-dire de ménager plein de portes d'entrée. Donc ça se rapprocherait peut-être un peu de la façon de travailler de gens qui utilisent des échantillonneurs, des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire on réutilise ce qui a déjà été fait et on en fait quelque chose de différent.
Il y avait aussi une volonté de faire un bel emballage pour que les gens aient envie de l'acheter et après que ce soit difficile à l'intérieur pour que quand ils le lisent vraiment. Donc c'était une technique plus de packaging de l'ensemble pour que ça fasse plaisir aux yeux et qu'on se fasse happer et après qu'on ait du mal à le lire.
Oui, que ce soit pas évident au premier abord, parce que je pense que quand il y a un travail d'approche qui est un tout petit peu plus difficile, après on en retire plus que si c'est évident du premier coup d'œil. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que maintenant, si on ferait peut-être quelque chose d'un peu plus lisible quand même.
Et il y avait une construction graphique avec cette double page qui ouvre blanche avec juste une citation, et quand on passe à la suivante, elle est toute noire et c'est un crash de bolide à toute vitesse. Et ensuite, on ouvrait sur ce qu'on a appelé le sommaire, qui est une espèce de cartographie générale de la revue. Donc il y avait, enfin, c'était un jeu de mots avec des blancs, des noirs, du texte, pas de texte.
Donc je veux dire, que ce soit une performance des Young Gods, un concert des Young Gods, que ce soit un peintre, un écrivain qui travaille pendant 10 ans, que par exemple Hubert Selby, c'était un bon exemple, puisque c'est un type qui a travaillé, qui a eu un peu de succès dans les années 60, et après il a été oublié pendant 20 ans, et maintenant on le redécouvre, il est revenu à la mode, mais il a jamais fait de concession, il a vraiment fait ce qu'il voulait, et puis je crois que c'est ça qui est important.
Est-ce qu'il y a aussi au cœur du rock une sorte de, je sais pas, de débat poétique ou de poétique que vous voudriez un petit peu mettre en lumière?
Moi, je crois que les gens n'ont rien à foutre du rock.
Je sais pas ce que c'est l'esprit rock. Franchement,
ouais, le rock, c'est un fantasme.
Maintenant, le rock, c'est du bise, quoi. Je veux dire, c'est tout.
Hein. Si on veut toucher le public des 14-17 ans, on veut leur faire acheter des disques et on leur balance une imagerie fantasmagorique type Nirvana, Suicide.
Oui, ça, on est d'accord, mais là, on parle d'un petit peu des résistants, c'est-à-dire ceux qui tiennent un
petit
peu.
Oui, mais les résistants, ils résistent pas, quoi. Ils disparaissent, ou alors il y en a très très peu qui passent la barre. Et encore, je sais même pas ce que c'est que la barre. Est-ce que c'est le succès? C'est pas évident. Est-ce que c'est l'argent? Je pense pas que ça marche en France. Ou nous, les groupes dont on parle et qu'on aime, il y en a aucun. Ah, si, il doit y en avoir quelques-uns qui en vivent, et encore. Le rock'n'roll, c'est dans le présent. Et même quand on discute avec les groupes, on se rend bien compte qu'une fois qu'ils ont enregistré le disque, leur disque, il est derrière eux. Et à chaque fois, on vit ce décalage. Nous qui faisons la revue, ou un groupe de rock qui enregistre un disque, bon, après, ils ont peut-être le concert, mais c'est tout le temps un décalage dans le temps.
Il y a toujours un décalage entre la réalisation de quelque chose et la dissémination dans le public, en fait, quoi.
C'est un mode de vie, le rock'n'roll, je pense. Ça se rapproche des nomades. Enfin, on voit les groupes de carrière européenne, ils passent leur temps dans des bus à aller de ville en ville, à rencontrer très peu de gens, à être toujours, avoir des relations bizarres. Je crois que c'est vraiment l'instant, c'est vivre dans l'instant. Donc c'est pour ça qu'il y a pas. C'est pour ça que je pense que c'est un combat, et il est beau et il est intéressant et il a vraiment une richesse en soi, mais il est voué à sa perte. Mais ce qui reste, c'est ce qu'il y a autour. C'est l'action que tu peux avoir en allant à un concert, en rencontrant des gens, en lisant les paroles et en t'intéressant à des bouquins, en vivant un peu cette espèce de vie de groupe. Quand tu vas à un concert, tu vas toujours avec des amis, après tu vas boire un coup, tu discutes, t'essayes de savoir ce que raconte le chanteur, et c'est une ouverture sur le monde. Mais je pense que ça reste, alors que la musique, elle disparaît assez vite. We'll be right back.
Direction Barbès, le boulevard, entre Tati et la Goutte d'Or. À l'arrière-plan, le Sacré-Cœur. En arrivant chez Antoine, dit Tony Truant, je ne sais pas pourquoi, une petite phrase me trotte dans la tête. Je pense à la chaleur que tisse la parole autour de son noyau, le rêve qu'on appelle « nous ». Propriétaire Tristan Tzara, le poète Dada.
Bonjour.
J'arrive.
D'accord. On s'installe.
J'ai pas de cahoua.
Avec plaisir.
Non,
c'est bien.
Spécialement, il y a une petite fille qui vit au Japon. Et je lui ai envoyé un ultimatum.
Ah bon?
J'ai envoyé cette chanson-là. Ultimatum.
Par l'année 81, peut-être, non?
81
Oui.
Ouais. Bah, d'accord. Parle-moi de mai.
81, c'est quand même une date.
C'est une date.
Pourquoi? Ou alors mes sources sont fausses. Je sais pas, il paraît qu'en 81, t'as pris la deuxième guitare dans
ah,
un groupe.
Dans les notes, ouais.
Ouais.
Je crois que c'était en. Ouais, ça devait être. Ouais, c'était au milieu 81, ouais. Mm.
Donc eux, tu les entendais depuis quelques temps et tu te disais, tiens, j'aurais bien avec eux.
Ah, c'était mon rêve. C'était mon rêve et. Il s'est réalisé.
Pendant combien de temps?
J'ai joué 11 ans et demi, je crois, avec eux. On a fait plein de concerts, on a tourné un peu partout dans le monde et on s'est vachement amusé.
Oui.
Ouais.
Mais encore.
Mais encore, bah, je sais pas. C'est chouette quand t'es presque adolescent, c'est jusqu'à. Bah ouais, quand t'es adolescent et que tu joues de la guitare dans le. Meilleur groupe de rock du monde.
On a dit de toi que tu avais un tempérament ardent.
Ouais, bah. Ouais, plutôt.
T'as écrit pour eux?
Non. Enfin, j'ai écrit des petits bouts de trucs, ouais. Un peu. Too Much Less for the Neighborhood, et puis une chanson sur Legendary Lovers. Et puis des, quand on a fait des trucs en français, ouais, j'écrivais les paroles.
Déjà.
Voilà.
Ouais. Et donc après, tu suis ton étoile en solo.
Ouais.
Hein, Tony
ouais.
Truant.
Ouais.
Ouais.
Ouais, parce que j'avais plein de chansons et j'avais envie de les partager avec le monde moderne.
Bon, alors ça a commencé comment? Tony Truant, c'était Tony Truant and the Million Dollars Quartet.
Non, Million Bolivar Quartet. Ça, c'était en 89. Mais je continuais à jouer avec les Dogs.
Ta musique s'est adoucie, mais pas l'humeur.
La musique s'adoucit?
Oui.
Ah bah, le Bolivar Quartet, c'était pas tellement... pas tellement doux. Là, tu trouves que c'est...
Oui.
Ah oui, mais maintenant, c'est plus les Bolivars, c'est les Dindindons, et c'est pas les mêmes. Ça, elle s'adoucit.
Un petit peu, c'est plus mélodique, c'est plus...
Non, c'est plus sophistiqué, plus dans les sons.
Oui, il y a plein de couleurs, sons, moi, je trouve, ouais. Musicales.
Oui, il y a plein de... Ouais.
Parce que là, t'as fait appel à des... oui, on va parler un petit peu de la famille.
Oui. J'ai fait appel... Bah, écoute, dans les Dindindons, il y a Jean-Pierre Arnoux, qui fait la batterie et les percussions, Ernie Brooks à la basse, Cyril Lefebvre aux guitares hawaïennes et au goulot de bouteille, Joseph Rakaï au piano, orgue et ukulélé, et puis il y a une jeune fille qui s'appelle Jeanne, la duchesse des Bas-Fonds Savary, qui chante, qui fait des chœurs avec moi. Voilà. Et bah, alors tous ces petits-enfants, ils ont fait plein de trucs différents.
Ouais.
Ouais. C'est moi qui les ai réunis. Et puis on est des vieux complices. On est une bande de renégats. J'impose rien du tout, à part mes paroles, quoi. Ouais. Mon blabla.
Alors le blabla, il se fait où? Il se fait comment
Il se fait n'importe comment.
Cuisine, là,
oui, dans la cuisine.
N'importe où, n'importe quand.
Ouais. Ouais, j'écris tout. J'écris des petits bouts de trucs partout, quoi. Et puis des fois, je les colle ensemble. C'est comme ça que je fais.
Si c'était à refaire, je perdrais tout autant. Il y a des choses comme ça. Ouais. On aime la vie qu'on aime et on aime, ouais.
On aime la vie qu'on aime, ouais. Ouais. Et ça.
Il y a un côté un peu quand même, genre l'espoir s'en est allé, quoi, un petit peu désespéré.
Désabusé.
Ou désespéré, moi je dirais.
Désespéré. Enfin, je trouve pas que c'est un peu noir, ouais. Ouais.
Mais toujours avec un double tranchant et on rigole quand même un petit peu.
Voilà.
C'est vrai qu'il y a pas mal d'humour.
Ouais, bah oui.
Ouais.
Bah c'est parce que je trouve que la vie c'est un peu comme ça, non?
Ouais.
C'est pas franchement gay, mais on fait avec, ouais. Non? Quand tu vois ce qui se passe dehors, par exemple, boulevard Barbès.
Qu'est-ce qui se passe dehors, boulevard Barbès?
Vous avez tous les poulagas qu'il y a, et c'est pas franchement amusant.
Oui.
Ah. Puis l'autre qui a le cancer de la prostate, tu vois, alors après on va se taper les gros dégueulasses encore pire. Bon, je trouve pas ça vraiment très excitant, quoi. Mm. Mais en même temps, ça me permet une certaine réaction.
Est-ce que les années avec les Dogs, ça t'a formé un petit peu le caractère, le tempérament, ou est-ce que tu l'avais déjà, ça? Est-ce que t'en avais un petit peu après tout le monde déjà à l'époque?
Ouais. Hippie un jour, hippie toujours. Ouais. Je vais répondre au turlu.
Oui. Deuxième. On parlait du tempérament ardent.
Ouais.
Du petit Antoine.
Ouais.
Dès le départ.
Ouais, j'ai toujours été assez nerveux. On me filait des cachetons quand j'étais petit.
C'est-à-dire?
Bah, je sais pas, des tranquillisants, je me rappelle plus ce que c'était.
Ah,
du Gardénal, peut-être, je me rappelle plus. C'était pas bon, je crois, ça me rendait encore plus nerveux.
Ça bouge tout le temps, quoi, c'est quand même une vie assez électrique.
Bah, quand c'est électrique, c'est super. Je trouve que ça bouge pas assez, moi. J'adore jouer sur scène et j'adore être en studio. Moi, c'est vraiment la vie que j'aime, quoi. Peut-être plus excitant d'être sur scène, mais en même temps, quand t'es en studio et que tu vois que les chansons prennent forme et que chacun y met sa sauce, c'est vachement bien.
Chanson magnifique, la dernière, donc c'est un hommage à Elno, en coulisses.
Ouais, enfin, c'est...
Ça c'est bien, en fait, c'est toute la vie, quoi. Enfin, c'est toute la vie...
Bah, c'est un peu la vie qu'on mène, quoi. Il n'y a pas... C'est pas mal.
En coulisses, on se dévisse, c'est sérieux.
Ouais.
C'est vrai, ça.
Bah oui, ça c'est plutôt vrai, ouais. Et puis c'était un peu, à chaque fois qu'on se rencontrait, c'était un peu comme ça, quoi.
Ouais.
C'était tard en général.
Ouais. Il y a tout, hein. Il y a la mort, 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 mort.
Ouais, ça c'est vraiment une grosse plaisanterie.
Ouais.
Ma vie est fichue car je suis mort.
Ouais.
On peut pas. Enfin, il n'y a pas plus bête.
papier peint aussi.
Papier peint, ouais.
Elle a été faite où, celle-là?
Papier peint?
Ouais.
Je me rappelle pas. Mais des fois, tu sais, quand tu fais des tournées et tu te retrouves dans... Il y a des hôtels un peu... je sais pas, j'ai dû le faire dans la cuisine, mais... tu te rappelles des papiers peints sordides et tout, et puis pour peu que tu sois un peu galvanisé, t'as un peu désalu, quoi.
Tu sais que cette émission, ça s'appellera, le titre, c'est Combat Rock, version française. Ça te paraît plutôt démodé ou ça te fait...
Combat Rock?
Ouais.
Démodé, combat rock, c'est éternel.
Ouais.
Enfin, rock, ça pourrait s'appeler combat jazz ou combat java, c'est juste un mot comme ça, quoi.
Il n'y a plus de combat, alors, aujourd'hui, c'est...
Ah, si.
Si.
Pourquoi, comment ça, il n'y a plus de combat?
Je sais pas, combat rock, c'est un petit peu, on en a après tout le monde, non?
Bon, on en a toujours après tout le monde.
Ouais.
Ah ouais, après la terre entière, ouais. Enfin, après certains, quoi. Il y a plutôt des... Il y a pas mal de mollassons, mais il y a quand même des gens encore un peu... qui résistent. Il y a encore des irréductibles, ouais.
Les gens étaient contents de participer, de se dire d'un don?
Non, pas du tout.
Non.
Cyril, particulièrement, il était furieusement contre.
C'est vrai.
Ouais, il voulait pas, il trouvait que ça. Mais depuis que Gilbert Shelton nous a dessiné un dindon qui est partout à l'intérieur du disque... Parce qu'il y a les dindons, il y a les dindons domestiques, il y a les dindons sauvages. Donc ça n'a
rien. Tu ne crois pas les dindons sauvages?
Ah bah bien sûr que oui. Aux États-Unis, le dindon c'est un animal sauvage qui a été domestiqué par des agriculteurs ou des. Mais autrement, ça n'a... dindon sauvage, il est pas stupide parce qu'il est sauvage. Mais dindon domestique, j'en ai parlé longuement avec Gilbert Shelton et il a un cousin dans l'Arkansas qui élève des dindons. Et il m'a dit que souvent, les dindons, les petits dindons, je crois que ça s'appelle les dindonneaux, se noient avec l'eau de pluie, avec la pluie. Parce qu'ils ouvrent le bec quand ils flottent, et ces abrutis, ils se noient. Et une autre fois, il y a un renard qui est rentré dans le poulailler, dans le dindonnier de son un coup, et il a tué une dinde, et il y en a 40 qui sont morts de trouille.
C'est
comme quoi, c'est vraiment abruti. Mais nous, on est des dindons sauvages. Donc rien à voir.
Deux mots justement sur le rock'n'roll.
Ouais. Deux mots. Rouler tanguer. Ça en fait deux, hein.
Ouais. Un petit peu plus alors, un petit peu plus.
Quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire sur le rock'n'roll?
Ce que t'as à dire sur le rock'n'roll.
Le cri de révolte de la jeunesse en colère.
Par exemple.
Ouais,
bah... Il y en a qui prennent ça très au sérieux, Antoine. Il y a des gens qui ont des textes très revendicatifs.
Bah moi, je suis vachement revendicatif, non?
Oui, mais enfin, c'est dans un autre...
Comme qui?
Bah, il y a des groupes qui sont engagés, qui parlent du racisme, antifascisme, antisexisme.
Ouais, ouais, bah oui. Pour le...
Anarchie, enfin, qui...
Ouais.
Ouais.
Bah, très bien, hein.
Tu les renies pas? Ils font partie de la famille du rock'n'roll français?
Ah bah, je sais pas... Je sais pas vraiment une famille... Non, j'ai pas à les nier ou à les renier, c'est qu'ils existent. Paix à leur âme.
En coulissons, Stéus, c'est sérieux. On ne fera pas sûrement pas long feu à ce petit jeu. À l'abri des ballots, on s'excite sous d'autres yeux. On se déniable perspicace, si du mieux que l'on peut. Affligeant tout tiédasse, voilà qu'on schlingue la finasse. La moins chère mais pas la plus dégueulasse. On mène la vie qu'on aime.
Quand j'étais gosse à l'école, la première chanson que j'ai faite, ça s'appelait « Maman ne veut pas que j'aille à l'hôpital psychiatrique ». Pas à cause des piqûres, à cause de la nourriture.
Et ça, tu chantais tout seul? Tu t'accompagnais à la guitare?
Ouais, au départ tout seul et puis après, on avait un groupe. Un groupe de garage et de lycée. Et puis, autrement, là, moi, je chante, en fait, mon engagement, c'est l'ivresse de l'amour et l'amour de l'ivresse. C'est ça que je chante, en fait. Je chante que ça, que des chansons d'amour. C'est donc, voilà, c'est la base. Et après, on brode, et puis ça, c'est infini, ça peut... C'est un thème qui peut... Et c'est un thème éternel. C'est ça mon engagement politique. Je suis assez avec, d'accord avec Guy Gainsbourg qui disait que la chanson c'est un art mineur. Et c'est sûr que tu peux chanter, échanger de trois conneries. Bah, fais pas chier quand je travaille, c'est quand même une chanson politique ça, non? Il n'y a pas plus politique. Mais il faut que ça sonne, quoi. J'essaie que ça fasse. J'essaie que si tu le lis sur la musique, il y a une certaine musique dans le texte. En français, dans le texte.
La musicalité des mots.
Voilà. Ouais.
Adulé, indolent, ondulant l'adultère.
Ouais. Ça se termine comme ça, ouais.
Invité de ce poétique rock, Guy Perrault, Alain Dister, Marco du groupe Treponempal, Knikrik, Nicolas Ledoux, Mathieu O'Neill, rédacteur en chef de l'album Out of Nowhere, et Tony Truand. Combat rock, Bruno Roncière, Olivier Dupré, Alexandre Julia, Nathalie Battus. Baroque, poétique rock, par Nathalie Battus et Alexandre Julia, avec Guy Perrault, Alain Dister, Marco, Knikrik, Nicolas Ledoux et Mathieu O'Neill, prise de son et mixage, Bruno Roncière, Olivier Dupré.